Je m'appelle Julie Hanen et je suis auteure et metteur en scène de théâtre. Pendant cette pandémie, il m'est arrivé un truc quand même incroyable. En 2009, j'ai fait un voyage au Québec avec mes enfants. Et sur le traversier qui me ramenait des îles de la Madeleine, j'ai envoyé une bouteille à la mer. Donc j'ai jeté par-dessus la rambarde du bateau une bouteille avec un message pour quelqu'un qui trouverait cette bouteille. Pendant le confinement, j'ai enregistré pour les personnes dans les EMS des bouteilles à la mer, donc des petites capsules vidéo écrites par des collègues artistes auxquels je demandais d'écrire un mot et que j'enregistrais pour les apaiser de leur solitude. Et à ce moment-là, pendant que j'enregistrais ces bouteilles à la mer, je reçois un email d'une nana au Canada qui me dit qu'elle a trouvé ma bouteille à la mer de 2009 et qui me renvoie ma propre lettre. Donc j'ai pu lire ma propre bouteille à la mer que je m'étais envoyée, que j'avais envoyée des années auparavant aux gens auxquels je lisais des bouteilles à la mer au cœur de leur solitude dans les maisons de retraite.
Je m'appelle Thomas Florin, je suis pianiste. Et une chose que j'ai pu constater pendant cette période où j'ai été privé de mes activités de concert et de tout ce qui allait avec, donc de travail de répétition, de travail en amont de mon côté pour être prêt, de potentiels mandats aussi de composition ou d'arrangement, j'ai pu, en ce qui me concerne, en tout cas, constater que ma créativité, comme beaucoup de gens, il fallait bien qu'elle aille quelque part, quoi. On peut pas juste l'enlever et sur un non-lieu comme ça. Alors, il y a plein de gens qui se sont découverts une passion pour faire du pain chez eux. Il y a eu toutes sortes de choses où les gens ont trouvé ce qu'ils allaient faire. Et moi, où j'ai pu m'y retrouver, en fait, grâce à ça, c'est que j'enseigne pas mal à côté de ça. Je donne des cours de piano à divers endroits et des cours d'ensemble, jazz, comme ça. Et en plus de la sécurité financière que ça a pu m'assurer pendant cette période, là où j'ai eu beaucoup de chance, j'ai vu que je me suis retrouvé beaucoup dans ce rôle de transmission-là et peut-être en plus de me réaliser à travers mes élèves qu'à travers les réalisations artistiques que je ne pouvais pas faire. Du coup, j'ai un peu décalé comme ça sur mes élèves l'épanouissement artistique ou de l'apprentissage ou juste le moment du cours. Et ça m'a vraiment fait avancer aussi dans mon rôle d'enseignant à ce niveau-là, apprécier ce chemin que je fais avec mes élèves et puis cette quête un peu d'épanouissement comme ça à travers la musique et sa pratique, sa découverte et voilà.
Thank you. Je suis Lucie Heidenbens, artiste, chorégraphe et danseuse. Et pendant le premier confinement, lorsqu'il est arrivé, en fait, moi, j'étais déjà dans une démarche où j'avais pris une pause, en fait. J'étais partie en voyage au Pérou. Et donc, en fait, le confinement est arrivé pile poil au moment où j'étais en voyage. Je ne regardais plus mes mails, je n'étais pas au courant des nouvelles. Et donc, ça a pris un certain temps avant que je réalise ce qui arrivait mondialement. Et donc, j'étais vraiment dans les montagnes perdues du Pérou. Et tout à coup, on me disait, mais les frontières ferment, on ne peut plus rentrer. Et j'étais un peu à côté de tout ça, de tout ce qui se passait. Et j'ai dû vraiment prendre des moyens in extremis pour rentrer dans la capitale. D'ailleurs, je n'ai pas réussi. Donc, j'ai dû prendre 26 heures de bus pour rentrer à un endroit parce que tous les avions étaient pris d'assaut. Enfin, c'était assez rocambolesque jusqu'à ce que j'arrive à un endroit dans un hôtel où j'ai pu rester confinée finalement au Pérou. Parce qu'il n'y avait plus moyen de rentrer. Et jusqu'à ce que je me fasse rapatrier, vraiment en passant par un aéroport militaire. Donc les aéroports étaient fermés. Donc c'était une aventure assez, assez particulière. Et puis voilà, j'ai pu finalement rentrer en Suisse. C'était quand même 20 jours après. Donc tout ça a pris 20 jours. Et là, je me suis retrouvée à la gare de Zurich, qui était complètement déserte. J'ai pris un train. Les paysages, le train était vide. Les paysages étaient déserts. On ne voyait plus un seul humain traverser les rues. Donc c'était vraiment une arrivée en Suisse assez particulière. Et puis je sentais bien cette atmosphère très, très stressée. Angoissée. Moi, j'étais dans un état un peu de nouveau à côté parce que j'avais passé 20 jours au Pérou dans une communauté quelque part d'autres touristes qui étaient bloqués là. Donc, j'avais pas vraiment vécu cette isolation ou cette solitude. Mais quand je suis rentrée en Suisse, je l'ai bien senti et puis c'était un contraste assez, assez fort.
Bonjour, je m'appelle Cerise Rossier. Je suis artiste, performeur et graphiste. J'ai répondu à un concours du Centre d'art contemporain de Genève suite à l'exposition Scrivere Disegnando. C'était créer votre propre alphabet. J'ai créé un alphabet en 2 secondes après pas mal de recherches dans ma salle de répétition qui n'étaient pas vraiment liées. Mais du coup, ça a donné un alphabet où chaque lettre est une position du corps. Donc quand vous dansez, c'est comme une mécanique chorégraphique. Vous dansez les mots. J'ai pas gagné ce concours, mais j'ai gagné une bourse d'aide à la création en juillet 2020. Du coup, j'ai eu de l'argent, du temps, beaucoup de temps, de l'espace pour aller apprendre un alphabet, pour aller au bout, enfin, au premier bout, d'un projet, d'une recherche, d'établir les prémices d'une recherche. Il y a eu de la solitude, mais on connaît Rilke, la solitude avec un grand S, il faut se la tarter. En tant qu'artiste, elle fait partie du processus. Et je suis comme ça entrée dans un nouveau langage en allant à ma salle de répétition quasiment tous les jours, faire A, B, C, faire du renforcement musculaire à côté, parce que ce sont vraiment des positions où chaque lettre prend tout le corps, les lier, me rendre compte qu'en fait, si je les donnais au public, je les avais appris à l'envers, alors il fallait que je les apprenne à l'endroit. La vitesse, le rythme, comment exprimer les mots, comment tout d'un coup il y avait des clés de lecture à donner aux spectateurs parce qu'ils n'allaient pas comprendre mon alphabet, comment donner ces clés de lecture, comment me sentir moins seule. Et là est venu quand même un public qui a été le public des réseaux sociaux parce que j'ai commencé à me filmer en salle de répétition. Et c'est pas simplement des répétitions, ce sont tout de suite des mots qui sortent, des mots avec des sous-titres, et donc des mots qui peuvent créer des idées. Et ça a été assez rapidement des slogans. Par exemple, le premier, ça a été « Celui qui fait mourir la culture ne peut pas faire grandir le monde ». Et j'ai capté un auditoire sur les réseaux sociaux parce que c'est très étrange, c'est presque absurde. Mais quand on va dans une idée absurde de manière très sérieuse, il se passe quelque chose. C'est un petit peu de l'ordre de l'Oulipo, de l'ouvroir de littérature potentielle, mon travail, cet alphabet, où chaque lettre est une position du corps, ça s'appelle « Durch », en allemand qui veut dire « par », à travers. C'est un média de communication alternatif. Incompréhensible, qui retient l'œil, mais qui va dans ce je sais pas, dans cette incompréhension, toucher plutôt les sens et dire par les micro mouvements du corps ou les attitudes ou le rythme, plus que la compréhension littérale des mots, des lettres qui forment des mots. Ensuite, il y a toujours, ce que je disais, clé de lecture, il y a toujours une petite, un sous-titre. Et comme ça, je me suis fait tout un nouveau public, un nouvel auditoire, une nouvelle communauté.
Je m'appelle Julie Hanen, je suis auteure et metteur en scène de théâtre. Ce que j'ai particulièrement apprécié pendant le confinement, c'est de pouvoir me retrouver avec mes enfants. Parce qu'en fait, quand on travaille dans le secteur culturel, souvent on travaille le soir et les week-ends quand toutes les autres personnes sont en congé. Et donc quand on mène une vie de famille, on n'a pas tout le temps l'occasion de passer autant de temps avec nos enfants. Alors j'ai aimé jouer à la maîtresse, en tout cas à la maîtresse d'école, hein, pendant les premières semaines. J'ai aimé aller me promener dans le jardin, inventer des choses avec eux. Et puis après, j'ai aimé quand ça s'est arrêté aussi, hein, parce que c'est bien aussi quand ça s'arrête.
m'appelle Jonathan Delachaux. Je fais de la peinture et de la musique également. Alors quand le confinement est arrivé, c'était un moment où j'avais un peu trop de concerts, donc ça m'a permis de me retrouver seul dans mon atelier pour me concentrer sur mes peintures. Et j'ai continué une série de peintures qui est la représentation de toutes les personnes que je connais dans leur appartement, dans une sorte d'enfilade de pièces, comme dans un corridor qui ne s'interrompt jamais. Et dans chaque appartement, avec chaque ami représenté, on voit l'appartement suivant. Ce qui fait que ça va donner un jour un film d'animation où on voit que des peintures, mais la caméra zoome dans les tableaux à l'infini parce que chaque tableau contient le suivant. Et du coup, j'avais commencé à peindre cette série d'amis. C'est un travail qui va me prendre normalement 42 ans. Je l'ai commencé il y a 2 ans, il en reste 38 encore. Et là, pendant le confinement, les amis, quelques-uns étaient disponibles, j'ai pu aller chez eux. Mais d'autres étaient complètement soit en quarantaine, soit à l'autre bout du monde, etc. Donc j'ai pu travailler par Zoom, ce qui était assez intéressant. Je travaille en général d'après photo, mais là j'ai travaillé d'après capture d'écran Zoom, où mes amis se mettaient eux-mêmes en scène devant la caméra et moi je les photographiais, ensuite je les peignais. Donc j'ai pu faire pendant le premier confinement, je crois, 14 peintures et pendant le deuxième encore 14. Donc j'ai bien pu avancer dans cette série qui s'appelle Une traversée de Chanzaka. Je m'appelle Jonathan Delachaux et depuis à peu près 2013, je travaille sur la construction d'une ville imaginaire. La ville imaginaire s'appelle Chanzaka, c'est une ville située dans un archipel d'îles flottantes. Tous les îlots flottent parce qu'ils sont faits de pierres ponces. Chanzaka est la ville la plus importante, en tout cas celle que je connais le mieux. Elle n'est jamais au même endroit dans le monde, tout l'archipel bouge. Aux dernières nouvelles, l'archipel de Chanzaka était entre la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie, et maintenant il se dirige vers le 42e rugissant. Donc c'est un endroit qui n'est jamais dans le même axe nord-sud-est-ouest, ça bouge toujours. Et c'est une ville hautement culturelle avec beaucoup d'artistes. Moi je suis en train de peindre tous les intérieurs des habitants de cette ville. Un ami m'aide à monter le côté informatique de la ville, parce qu'il faut savoir que c'est une ville imaginaire, donc pour la visiter il faut un casque de réalité virtuelle ou d'autres outils qui existent ou qui n'existent pas encore d'ailleurs, parce que c'est une technologie qui évolue. Alors pendant le confinement, grâce à un ami artiste et spécialiste en technique de cinéma de 3D, on a pu continuer à avancer sur ce projet chanzacien, donc ce projet de ville imaginaire. Et maintenant que le confinement est fini, beaucoup de personnes ont réalisé que c'est un projet qui pouvait avoir un écho, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des réunions Zoom dans une ville, dans le café du coin de la rue à Chanzaka. On pourrait visiter une exposition à Chanzaka, on va pouvoir écouter des concerts là-bas. Et là, le confinement nous a montré que la technologie Zoom ou de visioconférence, elle était là, mais elle n'était pas du tout comme on se l'était imaginé quand on était enfant et qu'on regardait de la science-fiction. Donc je pense pour le prochain confinement, les gens viendront, s'il y a un prochain confinement, les gens viendront se confiner à Chanzaka, cette ville imaginaire, et là ils pourront discuter entre eux autour d'une absinthe ou dans une exposition de photos ou en écoutant un trio de guitaristes manouches, tout ça dans un monde virtuel. Avec mon épouse Zoé Capon, on a décidé de s'entourer d'une foule d'amis imaginaires pendant le confinement. On devait faire une installation pour une exposition qui s'appelle Motière en plein air. On avait un projet un peu compliqué de changement de sexe par télépathie ou des choses comme ça. Enfin, on a complètement changé notre projet dès le moment où il y a eu le confinement et que l'exposition a été reportée d'une année. Et on s'est dit, on va refabriquer nos proches en taille humaine et en marionnettes. Donc on a fabriqué des bustes en plâtre, mousse expansive, très simple. Et ensuite on a photographié nos proches. Donc ceux qui étaient à distance, on les a photographiés par Zoom, par Skype. D'autres nous ont envoyé une photo, ou bien on a pu croiser quand même certains amis et les photographier. Ensuite on a projeté les visages sur les marionnettes. On les a peints à l'acrylique et à l'aquarelle. Et ça a donné des choses très bizarres comme un morphing. Parce que par exemple on prenait un ami fin de visage, mais on le projetait sur une sculpture avec des grosses joues et ça donne par exemple comme le cousin de l'ami fin de visage, ou bien si on peint un gros sur un maigre ou un homme sur une femme, ça donne toujours quelqu'un qui n'est pas ressemblant à l'ami mais qui donne un trait commun comme un air de famille. Du coup, petit à petit, en fabriquant ses proches, on arrivait à 42 personnages. Et là, on a eu beaucoup de chance, parce que si on a un grand atelier au centre-ville, il est quand même pas si grand que ça, et on vit dedans. Donc on a très vite été débordé par cette foule. On les attachait au plafond, on en mettait vraiment partout. Et par chance, le musée de l'Ariana nous a proposé une résidence. Du coup, on a pu continuer de fabriquer cette foule au musée de l'Ariana pendant un mois. Et ça, c'était le jour de la deuxième réouverture, donc deuxième sortie de confinement. Donc on ne savait pas, en allant s'installer à l'Ariana, si les portes seraient ouvertes ou fermées. Mais en fait, elles ont été ouvertes, donc on a pu travailler en public, ce qui était très agréable. Et ensuite, cette foule de 42 personnages est partie à Motière, en plein air, où elle était exposée tout l'été 2021. Et ensuite, au Guépard Artspace à Berne. Et maintenant, elle est encore en train de se balader. On va voir comment cette foule continue sa vie. Là, je vais parler pour ma femme, Zoé Capon, qui n'a pas pu venir donner son témoignage aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelque chose de chouette à raconter par rapport au confinement et aux photos de Marc, parce qu'on voit beaucoup d'images qui sont extraites de cette histoire. C'est un film et un cabaret. Alors, il s'agit du premier long métrage de Zoé Capon, qu'elle a fait directement inspiré par le confinement et pendant le premier ou le deuxième confinement, je dirais plutôt le deuxième de mémoire. Le film s'appelle Balade triste et on voit un personnage qui marche de pièce en pièce dans une sorte de bâtiment infini, et dans chaque pièce il y a une scénette qui se passe avec un personnage de cabaret. Je vais pas en dire trop parce qu'il vaut mieux aller voir le film qui va sortir là à Lyon dans un festival et bientôt sur les écrans. Il s'appelle Balade triste. Donc ça a été l'occasion de travailler comme ça, de faire un film, un long métrage, en étant dans une toute petite équipe, parce que dans les plans, il y a rarement plus de deux ou trois personnes. Donc ce confinement a été très, très, très intéressant pour mon épouse Zoé Capon, qui a pu faire comme ça, avec peu de moyens, un premier métrage qui est, à mon avis, digne d'un grand film. Et ensuite, ce film a été projeté à l'usine, au Spoutnik. Et on a pu faire un cabaret où donc les gens venaient voir le film l'après-midi et le soir ils venaient voir le cabaret, mais le cabaret était à moitié dans la salle, enfin sur la scène, et à moitié dans l'écran. Donc une sorte de caméra obscura ou de lanterne magique où les comédiens sortaient de l'écran. Moi j'ai accompagné avec un groupe de musique les chanteurs et chanteuses. Et du coup, des fois, on avait une chanteuse qui était dans l'écran, enfin sur l'écran de cinéma qui était derrière nous, alors qu'en fait, elle était 20 mètres plus loin dans les loges, mais elle était filmée en direct. Et même le public, les spectateurs, parce que ce cabaret a été fait aussi juste à la sortie du confinement. Donc le lundi, on ne savait pas si on allait jouer pour des caméras et des captations ou si on allait jouer devant un vrai public. Et le mardi, on a appris qu'on allait pouvoir accueillir un public. Donc c'était vraiment les premières grandes retrouvailles. Et c'était vraiment la fête au niveau des comédiens et au niveau des spectateurs. Et en plus, à la fin, les spectateurs se retrouvent dans l'écran de cinéma, et c'est là qu'ils comprennent qu'en fait, tout ce qui se passait à l'écran était filmé en direct.
Je m'appelle Nicolas Field, je suis batteur percussionniste basé à Genève. Et alors, un des premiers projets que j'ai dû annuler au début du confinement, c'était un projet de concert avec deux musiciens étrangers, un contrebassiste anglais et un saxophoniste catalan basé à Barcelone. Évidemment, on avait prévu tout ce projet, c'était une semaine de concert sur Genève. Il y avait déjà quelques temps, on se réjouissait évidemment de le faire. On n'avait jamais joué ensemble les trois, tous séparément comme ça, mais jamais les trois ensemble. Et puis bon, ben, est arrivé le confinement, ça a été annulé. Il y a eu toute cette problématique, évidemment, de savoir si on allait être en partie payé, complètement payé, pas du tout payé. L'institution qui nous invitait, évidemment, ne savait pas encore comment faire. Et alors, bon, voilà, toutes ces choses se sont réglées petit à petit. Nous, on est restés en communication, on s'est demandé ce qu'on allait faire. On avait déjà agendé d'autres dates possibles, qui évidemment n'ont pas été possibles. On s'est dit que est-ce qu'on allait collaborer sur un projet à distance en s'envoyant des choses? Est-ce qu'on allait mettre un xième projet en ligne, ce qui nous intéressait pas tellement, vu que c'était aussi une première rencontre. Ensuite, les choses se sont détendues, évidemment. L'institution en question ne pouvait pas reprogrammer directement tous les projets qu'elle avait annulés pendant le premier confinement. Du coup, il a été finalement reprogrammé pour l'automne passé, où il y a eu évidemment un deuxième semi-confinement. Et puis, on est arrivé à se dire que, bon, voilà, ce qui est étrange là-dedans, c'est la perspective de ne pas avoir de perspective. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Voilà, chacun des trois musiciens, on a tous géré ça de manière un peu différente. Il y en a un qui l'a moyennement bien vécu. De mon côté, bon, ben voilà, on s'est dit que ça se ferait quand ça pourrait se faire, et qu'il y aura sûrement un moment où ça pourra se faire. Et effectivement, il y a une petite semaine, le projet a pu se réaliser, et c'était assez intense, rien que ça, en fait, au-delà de ce qui s'est vraiment passé musicalement et la rencontre, en fait, mais simplement le fait de pouvoir réaliser un projet qui avait mis tant de temps et qui avait surtout tellement d'inconnus, en fait, dans sa réalisation.
Je m'appelle Thomas Florin, je suis pianiste et arrangeur, compositeur et toutes sortes de choses qui varient d'un jour à l'autre. Et j'avais une tournée prévue au mois d'avril au Japon pour aller jouer en solo piano et avec des artistes japonais de tous horizons comme ça. Et je croyais pas beaucoup au début que les choses allaient se fermer comme elles se sont fermées, et je voyais petit à petit les frontières et les possibilités de faire cette tournée qui se réduisaient petit à petit, et j'ai repoussé le moment de prendre une décision d'annuler mes billets d'avion et d'avertir tous les organisateurs que je pourrais pas venir. Et c'était un moment assez désagréable de s'asseoir sur un long travail d'organisation et aussi tout un boulot artistique qui était censé être présenté en annulant cette tournée. Donc ça, c'était assez moyen comme feeling. Et en annulant cette tournée, dans un premier temps, j'ai réalisé à quel point d'avoir des deadlines et des échéances était importante dans mon travail, et à quel point c'était ça qui me faisait avancer dans mon boulot de l'instrument, de la composition et de la création. Donc j'ai eu une période assez difficile, artistiquement parlant, qui a suivi ça, où dépourvu d'échéances comme ça, je me suis retrouvé incapable de continuer à avancer dans mon travail, alors que j'aurais voulu prendre du temps pour approfondir des choses. À côté de ça, du coup, à l'instar d'autres artistes avec qui je collabore, j'ai eu l'occasion de me plonger dans la partie plus administrative du travail de musicien, dans le développement d'une association et tout ce que ça implique de savoir faire, de demandes de fonds et de toutes sortes de gestions administratives que j'avais pas encore beaucoup faites. Et en ça, du coup, j'ai pu vraiment avancer et progresser dans ce domaine depuis ce moment-là.
Surtout le premier. Alors bon, un peu pour toutes les raisons qu'on connaît, les oiseaux qui reviennent, plus de voitures, un calme incroyable, pouvoir se retrouver vraiment chez soi à faire des projets qu'on n'avait plus le temps de faire autrement. Mais aussi, ce confinement est tombé vraiment au bon moment. J'avais trop de concerts à ce moment-là et je commençais à ne plus en pouvoir. Et je venais de fabriquer un instrument, une sorte d'invention. J'ai pris deux clarinettes alto et je les ai scindées ensemble pour en faire qu'une. Donc je me suis retrouvé à être deux clarinettistes au lieu d'un. Donc non seulement j'avais la liberté de plus trop faire de répétitions de concerts et de pouvoir me concentrer sur mes peintures, mais en plus je pouvais continuer à faire de la musique en duo tout en étant seul. Donc c'était assez un bon hasard d'avoir terminé cet instrument à ce moment-là. Ce qui fait que tous les soirs, je suis monté sur le toit de ma maison, je suis vers le parc des Bastions à Genève, et chaque soir je prenais un instrument différent pour jouer pendant une petite heure, vers 7 heures le soir, parce que comme ça j'avais le sonneur de la cathédrale qui me répondait sans le savoir, parce que lui il joue très fort avec son carillon, et moi je jouais pas très fort, mais ça me permettait d'avoir aussi un accompagnement, une base d'improvisation. Et j'allais comme ça tous les soirs avec mon cor des Alpes, ou ma double clarinette alto, ou le violoncelle. Je crois même que j'ai monté ma contrebasse une fois. Alors que c'est un peu compliqué parce que monter sur le toit, c'est quand même un escalier en colimaçon. Mais voilà, ça c'était un peu ma façon de continuer une pratique musicale pendant ce confinement. Et ce qui m'a fait du bien, parce qu'en général, je ne travaille jamais mes instruments parce que j'ai trop de concerts et trop de répétitions. Donc là, c'était musicalement un très bon exercice.
m'appelle Julie Hanen et je suis auteur et metteur en scène de théâtre. Le 13 mars, moi j'étais à Bruxelles en tournée. On avait monté le décor, j'étais en costume, je m'étais échauffée. Et 20 minutes avant l'entrée du public dans la salle, la directrice vient nous voir et elle dit bah, « les spectateurs ont annulé ». Donc 150 spectateurs qui annulent en même temps, c'était une première pour nous. Il se trouve que c'était des scolaires et que le gouvernement, donc en Belgique c'est un peu compliqué, mais le gouvernement venait de conseiller aux écoles de ne plus sortir des écoles et de ne plus aller au théâtre. Et donc en l'espace d'une heure et demie, on a 4 représentations complètes qui ont été annulées. Donc on était là en costume toute la journée sur le plateau, à ne pas savoir s'il fallait démonter le décor ou pas, puisque les toutes publiques étaient encore autorisées. On s'est retrouvés un peu paumés parce que ça ne nous était jamais arrivé. Le truc qui a été le plus difficile dans cette journée, c'est que j'étais donc en tournée en Belgique avec ma fille de 2 ans et que mes autres enfants étaient tous en Suisse. Et le soir, aux informations, on a commencé à parler de fermeture des frontières. Et donc pour moi, faire du théâtre, c'est passer les frontières avec une grande liberté, c'est apporter des paroles de liberté au-delà des frontières. Et tout d'un coup, j'ai eu peur de me retrouver enfermée de l'autre côté avec mes enfants, et puis ce vent d'épidémie et donc de panique qui soufflait un peu autour de nous. Et étonnamment, mon mari est venu me rejoindre à Bruxelles pour qu'on reparte tous ensemble, qu'on ne soit pas séparés. Après ça, moi je dois avouer que j'ai eu un grand moment de bonheur parce que j'ai aimé être avec mes enfants à la maison. J'ai aimé ce temps.
Je m'appelle Nicolas Field, je suis batteur, percussionniste et au tout début du confinement, on était le vendredi, donc c'était le vendredi 13 mars 2020, on était encore en résidence à Albi avec un projet musical et comme on était immergé dans notre travail, on ne croyait pas tellement que ce confinement était vraiment vrai et qu'il allait arriver. Et effectivement, on est rentré le vendredi soir et tout s'arrêtait. Je m'appelle Nicolas Field, je suis batteur et percussionniste. Et donc, au tout début du confinement, en rentrant de cette résidence à Albi de travail, tout s'est arrêté et pour moi, ce confinement a été l'occasion, après disons la surprise, de vraiment me plonger dans un travail approfondi de remettre à niveau, on va dire, tous les statuts d'une association et d'essayer de développer cette association pour l'amener autre part. Donc du coup, en ce qui me concerne, ce confinement m'a permis vraiment de faire un travail que j'aurais pas pu faire autrement.
Je m'appelle Julie Hanen et je suis auteur et metteur en scène de théâtre. pendant la période du Covid, dans ce qu'on a appelé la deuxième vague, par opposition au cinéma où on a appelé ça la nouvelle vague. Je suis partie en tournée en Belgique. Alors je devais faire une reprise de spectacle qui n'a jamais eu lieu. Et je devais tourner un spectacle qui s'est d'ailleurs arrêté de tourner 4 jours après mon arrivée à Bruxelles. Et au moment où je suis partie, mon papa est tombé malade. Il a attrapé le Covid. Et à mon retour, mon papa en est mort. Et donc, alors que j'étais là à me battre en Belgique pour faire exister mes spectacles malgré la pandémie, à essayer de trouver la faille du règlement qui nous permettrait de jouer quand même, j'ai raté les derniers 10 jours de vie de mon père. Je m'appelle Julie Hanen, je suis auteure et metteur en scène de théâtre. Et je pense que le moment le plus fort de toute la pandémie, à part le moment où tout s'est arrêté, c'est le premier jour où on est remonté sur scène. Je suis désolée, je peux pas dire plus. Je vais essayer. Vous savez, on est là sur scène et on ne se rend pas compte, avant d'être privé de ces gens en face de nous, à quel point ils nous ont manqué et à quel point... Je disais ça aux spectateurs, je disais, vous savez, sans comédien, sans auteur, sans metteur en scène, il n'y a pas de spectacle. Mais en fait, sans spectateur non plus, donc merci d'être là avec le masque, merci d'emmener vos enfants au théâtre, merci d'avoir le courage de ressortir dans les lieux culturels alors que vous en avez eu si peur ces derniers mois. C'était énorme, 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 énorme.